Je recousis Pasiphaé. Des soldats à l'attitude soigneusement neutre arrivèrent, puis emportèrent la cage dans un placard, au plus profond du palais. Ma sœur cria dans leur dos
« Que personne ne s'en approche sans mon autorisation ! Et donnez-lui quelque chose à manger !»
Des servantes silencieuses roulèrent le tapis détrempé et emportèrent la banquette, comme si elles s'acquittaient de ce genre de tâches tous les jours. Elles brûlèrent de l'encens et des violettes pour masquer la puanteur avant de porter ma sœur dans son bain. « Les dieux te puniront !» lui avais-je dit en m'affairant sur son ventre. Mais elle s'était contentée de partir d'un rire surexcité.
« Tu n'es pas au courant? Les dieux adorent les monstres !»
Ces paroles m'avaient fait sursauter. « Tu as parlé à Hermès ?»«
Hermès? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Je n'ai pas besoin d'un Olympien pour m'expliquer ce que j'ai sous le nez. Tout le monde le sait » avait-elle continué d'un air méprisant. « Sauf toi, comme d'habitude. »
Une présence à mes côtés me ramena à la réalité. C'était la première fois que nous étions seuls depuis que Dédale était arrivé sur mon île. Son front était constellé de taches brunes, ses bras maculés jusqu'aux coudes. « Puis-je te bander les doigts ?»«
Non, merci. Ils se répareront tout seuls. »
« Madame, » il hésita.
« Je te suis redevable pour le restant de mes jours. Si tu n'étais pas venue, je me serais retrouvée à ta place. »
Ses épaules étaient crispées comme s'il se préparait à encaisser un coup. La dernière fois qu'il m'avait remercié, j'avais tempêté contre lui. Mais je comprenais mieux maintenant. Lui aussi savait ce que c'était que de fabriquer des monstres.
Je suis heureuse que ça n'ait pas été le cas, commentai-je en désignant ses mains couvertes de croûtes étachées à l'image de tout le reste. Tes mains à toi ne peuvent pas repousser.
Il baissa la voix.
Est-il possible de tuer cette créature ?
Je pensais à ma sœur, qui nous avait crié de faire attention.
Je l'ignore. Pasiphaé a l'air de penser que oui, mais c'est tout de même l'enfant du taureau blanc. Peut-être n'est-il pas gardé par un dieu, ou peut-être tous ceux qui essaieront de lui faire du mal seront-ils frappés par un sort. Il faut que j'y réfléchisse. Il se frotta le crâne, et je le vis perdre tout espoir en une solution simple.
Dans ce cas, je dois construire une autre cage. Celle-ci ne va pas tenir longtemps. Il partit. La saleté séchait en se solidifiant sur mes joues et mes bras étaient imbibés de la puanteur graisseuse de la chose. Je me sentais sombre et lourde, intoxiquée par tout ce sang. Si j'appelais les servantes, elles m'emmèneraient prendre un bain, mais je savais que cela ne suffirait pas. Pourquoi ma sœur avait-elle engendré une telle abomination? Et pourquoi m'avoir convoquée? La plupart des naïades auraient pris la fuite, mais l'une des Néréides aurait pu accepter, car elles étaient des monstres autrefois. Ou Persès ? Pourquoi ne l'avait-elle pas appelé lui ? Mon cerveau ne trouvait pas de réponse. Il était mou et éteint, aussi inutile que mes doigts manquants. Une seule pensée me vint clairement. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester les bras ballants alors qu'une abomination pareille était lâchée sur le monde. Il fallait que j'essaie de localiser l'atelier de ma sœur. Peut-être y trouverais-je quelque chose qui m'aiderait, un antidote, une drogue puissante destinée à inverser les sorts. Ce n'était pas loin, une pièce attenante à sa chambre à coucher derrière un rideau. Comme je n'avais encore jamais vu l'atelier d'une autre sorcière, je parcourus ses étagères, curieuse, prête à trouver je ne sais quoi, une centaine de choses macabres, des foies de kraken, des dents de dragon, la peau de géant écorchée. Pourtant, je ne vis rien d'autre que des herbes, assez rudimentaires au demeurant, des poisons, des coquelicots, quelques racines curatives. Je ne doutais pas que Pasiphaé puisse faire des merveilles avec, car elle avait toujours eu une volonté de faire. En revanche, elle était paresseuse, et j'en voyais ici la preuve. Ces quelques simples étaient aussi vieux et inefficaces que des feuilles mortes. Ils avaient été récoltés au hasard, certains encore bourgeonnants, d'autres déjà flétris, coupés avec n'importe quel couteau, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. À ce moment-là, je compris une chose. Si ma sœur était deux fois meilleure déesse que moi, j'étais deux fois meilleure sorcière. Cette camelote périmée ne me serait d'aucun secours. Et mes propres drogues d'Ea, aussi fortes qu'elles puissent être, ne suffiraient pas non plus. Le monstre était lié à la crête. C'était donc la crête qui devait me guider pour accomplir la tâche à venir. Je rebroussai chemin à travers les salles et les corridors jusqu'au centre du palais. J'y avais remarqué des marches qui conduisaient non pas au port, mais vers l'intérieur des terres, jusqu'à une étendue de jardins et de pavillons lumineux qui laissaient ensuite place à des champs ouverts. Tout autour de moi, hommes et femmes s'affairaient à balayer les dalles de pierre, cueillir des fruits ou porter leurs paniers d'orge. Ils gardaient le regard diligemment baissé sur mon passage. Je suppose qu'au contact de Minos et de Pasiphae, ils s'étaient habitués à des spectacles plus sanglants. Je dépassai les maisons plus éloignées des paysans et des bergers, les bosquets et les troupeaux qui broutaient. Bien que les collines soient luxuriantes de végétation et si baignées de soleil que la lumière semblait en irradier directement, je ne m'arrêtai pas. Mes yeux restaient fixés sur les contours noirs qui se découpaient dans le ciel. On l'appelle le mont Dicté. Aucun ours, aucun loup ni aucun lion n'ose s'aventurer là-bas. Seulement les chèvres sacrées aux grandes cornes recourbées comme des conques. Même durant la saison la plus chaude, ces forêts restent fraîches et sombres. On raconte que, la nuit, la chasseresse Artémis parcourt ces collines, armée de son arc étincelant, et que c'est dans l'une de ces grottes envahies d'ombre que Zeus en personne avait été élevé, caché de son père qui voulait le dévorer. On y trouve des herbes qui ne poussent nulle part ailleurs. Elles sont si rares que beaucoup n'ont même pas reçu de nom. Je les sentais bourgeonner dans leurs cavités, soufflant des volutes de magie dans les airs. Une petite fleur jaune avec du vert au centre, un lys tombant à la floraison brun-orangé, et la meilleure de toutes, le dictame, la reine des plantes guérisseuses. Je ne marchais pas à la manière des mortels, mais comme une déesse, et mes pieds avalaient les kilomètres. Le crépuscule était venu quand j'atteignis les contreforts de la montagne pour commencer mon ascension. Les branches entrelacées m'enveloppèrent. L'ombre monta aussi haut que la marée, me chatouillant la peau. La montagne tout entière semblait bourdonner au-dessous de moi. Même ensanglantée et souffrante comme je l'étais, j'eus un élan d'excitation. Je suivis les mousses, les monticules sur le sol, et au pied d'un peuplier blanc, je trouvai un parterre de dictames en fleurs. Leurs feuilles étaient gorgées de pouvoir. Je les pressai sur mes doigts blessés. Le sortilège prit en un seul mot. Ma main serait guérie dès le lendemain matin. Je ramassai des racines et des graines pour en remplir ma sacoche avant de continuer ma route. Encore enveloppée de l'empreinte fétide et lourde du sang, je trouvai enfin une piscine naturelle aux eaux fraîches et claires, alimentée par la fonte des glaces. J'accueillis avec gratitude le choc de l'eau, éprouvant et purifiant. J'utilisai les petits rituels de purification connus de tous les dieux. À l'aide de galets trouvés sur la berge, je me frottai pour chasser la saleté. Après coup, je m'assis sur la rive, sous les feuilles argentées, pour réfléchir à la question de Dédale. Peut-on tuer cette créature? Parmi les dieux, quelques-uns possèdent le don de prophétie. La faculté de voir à travers l'obscurité et d'avoir un aperçu de nos destins. Tout ne peut pas être prédit. La plupart des dieux et des mortels ont des vies qui ne sont rattachées à rien. Elles s'en mêlent et suivent leur chemin ici et là, sans plan préétabli. Mais il y a aussi ceux qui portent leur destin comme un nœud coulant autour du cou, et dont la vie se déroule, aussi rectiligne que du fil de fer, quels que soient leurs efforts pour s'écarter du chemin tracé. Ce sont ceux-là que nos prophètes peuvent voir. Mon père était doué d'une telle prescience, et j'avais entendu dire toute ma vie qu'il avait transmis ce don à ses enfants. Je n'avais pas pensé à le tester. On m'avait élevé dans l'idée que je ne possédais aucune de ces qualités. Mais à présent, je touchais l'eau en disant « Montre-moi ». Une image se forma, délicate et pâle, comme constituée de tourbillons de brume. La flamme d'une torche fumante y dansait dans de longs corridors. Un fil se dévidait le long d'un couloir de pierre. La créature rugit, découvrant ses dents surnaturelles. Elle était aussi grande qu'un homme, vêtue de lambeaux pourrissants. Un mortel, l'épée à la main, bondit alors des ténèbres pour la frapper à mort. La brume se dissipa, le bassin redevint clair. J'avais ma réponse, même si ce n'était pas celle que j'avais espérée. La créature était mortelle, mais elle ne pourrait pas mourir bébé, ni de ma main, ni de celle de Dédale. Elle avait une destinée, des années plus tard dans l'avenir, et elle devait la vivre. Jusque-là, on pouvait simplement la canaliser. Si ce travail incombait à Dédale, il y avait tout de même peut-être moyen que je l'aide. Je marchais au milieu de ces arbres dans la pénombre, songeant à cette créature et à ses éventuelles faiblesses. Je me souvins de ses yeux noirs qui me fixaient goulûment, de la voracité avec laquelle elle s'était battue pour happer ma main. Que faudrait-il pour satisfaire cet appétit? Si je n'avais pas été une déesse, elle serait remontée le long de mon bras et m'aurait dévorée centimètre par centimètre. Je sentis une idée germer en moi. J'aurais besoin de toutes les herbes secrètes du monde dicté et, avec elles, des mauvaises herbes d'envoûtement les plus puissantes, racines de houx et brins d'osier, fenouil et cigu, aconite et les bords. J'aurais aussi besoin du reste de mes réserves de molly. Je parcourus la forêt d'un pas furtif, traquant chaque ingrédient tour à tour. Si Artémis se promenait cette nuit-là, elle se garda de croiser mon chemin. J'apportai les feuilles et les racines au bord du bassin et les écrasai sur les rochers. Ensuite, je versai la pâte obtenue dans l'une de mes fioles que je remplis de l'eau du bassin. L'onde contenait encore des traces de mon sang et de celui de ma sœur. Comme si elle le savait, la potion se teinta de volutes rouges et noires. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai sur le mont Dicté jusqu'à ce que le ciel devienne gris, avant de reprendre la marche vers Knossos en sens inverse. Le temps que j'ai regagné le palais, le soleil illuminait déjà les champs. Je passai devant une cour qui avait attiré mon attention la veille, et m'arrêtai pour l'examiner de plus près. C'était un grand parterre de danses ronds, bordé de lauriers et de chênes, dont l'ombre le protégeait du soleil écrasant. J'avais d'abord cru que son sol était en pierre, mais je voyais à présent qu'il était en bois, un millier de lames de bois si lisses et vernies qu'on aurait dit qu'elles ne faisaient qu'une. Une spirale y était peinte, partant du centre vers l'extérieur, telle la crête d'une vague qui déferle. L'œuvre de Dédale, sans aucun doute. Une fille était occupée à danser dessus. Alors qu'aucune musique ne jouait, ses pieds restaient parfaitement en rythme, chaque pas correspondant à un roulement de tambour silencieux. Elle-même bougeait comme une vague, gracieuse, mais d'un mouvement implacable et dynamique. Sur sa tête brillait un bandeau de princesse. Je l'aurais reconnue entre mille, la fille sur la proue de Dédale. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant, exactement comme sa statue. Elle se baissa pour exécuter une révérence. « Tante Circé, » dit-elle. « Je suis heureuse de te rencontrer. Je m'appelle Ariane. » Je décelai des bribes de Pasiphaé en elle, quoique seulement en cherchant un peu, son menton, la délicatesse de sa clavicule. « Tu te débrouilles très bien, » la complimentai-je. Elle sourit. « Merci, mes parents te cherchent. » « Certainement, il faut juste que je trouve Dédale d'abord. » Elle hocha la tête, comme si je n'étais qu'une personne parmi des milliers à vouloir voir Dédale plutôt que ses parents. « Je vais t'emmener, mais il faut que nous fassions attention. Les gardes sont dehors et ils surveillent tout. » Elle glissa ses doigts chauds, rendus légèrement transpirants par l'exercice, entre les miens, et me conduisit à travers des dizaines de passages latéraux obscurs, ses pieds effleurant silencieusement les pavés. Nous parvînmes enfin devant une porte en bronze. Elle frappa 6 coups selon un rythme préétabli.
« Je ne peux pas jouer maintenant, Ariane, » fit une voix. « Je suis occupée. »
« Je suis avec Dame Circé, » expliqua-t-elle.
La porte s'ouvrit brusquement sur Dédale, noir et constellé de taches. Derrière lui, il y avait un atelier, à moitié à ciel ouvert. J'aperçus des statues encore recouvertes de leur linge, des dispositifs et des instruments que je ne reconnus pas. En arrière-plan, une fonderie fumait et du métal chaud scintillait dans un moule. Il y avait un squelette de poisson sur la table, avec une étrange lame crantée à côté. « Je viens du mont Dicté, » commençai-je, J'ai entrevu le destin de la créature. Elle peut mourir, mais pas maintenant. Un mortel destiné à s'en occuper viendra. J'ignore combien de temps ça prendra. Dans ma vision, la créature avait atteint l'âge adulte. Je le vis digérer la nouvelle. Tous ces jours à venir où il allait devoir se tenir sur ses gardes. Il prit une grande inspiration. En attendant, nous allons la contenir alors. Oui, j'ai préparé un sort qui sera utile. La créature est avide de... Je m'interrompis, consciente de la présence d'Ariane derrière moi. Elle est avide de la chair que tu l'as vue manger. Ça fait partie de sa nature, et je ne peux pas éradiquer cette faim. Mais je peux lui assigner des limites. Tout ce que tu veux, je t'en suis reconnaissant. Attends un peu avant de te réjouir. Pendant 3 saisons sur 4, le sort contiendra son appétit. Toutefois, à chaque moisson, il reviendra et on devra la nourrir. Ses yeux se posèrent très vite sur Ariane, derrière moi. « Je comprends », répondit-il. « Le reste du temps, elle sera encore dangereuse, mais pas plus qu'une bête sauvage. » Même s'il approuva de la tête, je vis qu'il songeait au temps des moissons et au moment où il faudrait nourrir la créature. Il jeta un coup d'œil au moule derrière lui, rougi par la chaleur. « J'aurai terminé la cage demain matin. » « Bien, le plus tôt sera le mieux. Je ferai fonctionner le sort à ce moment-là. » Lorsque la porte se referma, Ariane attendait devant.
« Tu parlais du bébé qui vient de naître, n'est-ce pas? C'est lui qui doit rester sous bonne garde jusqu'à ce qu'on le tue ?»«
Oui. »
« Les serviteurs racontent que c'est un monstre, et mon père m'a grondé quand j'ai posé des questions sur lui. Mais c'est quand même mon frère, non ?»
J'hésitais avant de répondre.
« Je suis au courant pour ma mère et le taureau blanc, »
précisa-t-elle. « Aucun enfant de Pasiphaé ne pourrait rester innocent bien longtemps. Je suppose que tu peux dire que c'est ton demi-frère. Viens maintenant. Emmène-moi voir le roi et la reine. »